Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangou, une émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Comme à son habitude, le Studio Kalangou dépêche de temps à autre des équipes pour aller à la rencontre de ses auditeurs et auditrices à l'intérieur du pays. Objectif, toucher du doigt les réalités du Niger profond. Nous sommes à Agadez, dans les locaux de la radio Sahara, une des radios partenaires du Studio Kalangou pour un nouveau numéro du forum. Ce sont au total 5 radios partenaires qui diffusent les programmes du Studio Kalangou dans la région d'Agadez. Migration et sécurité Agadez, difficultés et solutions, c'est le thème dont nous allons parler dans le forum d'aujourd'hui. Quels sont les principaux défis que pose la question de la migration à Agadez? Quel est le nombre de personnes reconverties de la filière de la migration? Quelles sont les alternatives qui leur ont été présentées? Quels sont les points forts et les points faibles de ces alternatives? Quelles sont les responsabilités respectives des différentes parties prenantes? Comment y remédier? Voici en substance les principaux questionnements auxquels le forum tentera d'apporter des réponses. Autour de la table pour en discuter, Boutali Chiwaren, membre du comité paix d'Agadez, Abdourahman Ousmane Koutata, il est le président du conseil régional de la jeunesse d'Agadez. Et nous avons avec nous Ahmed Koussa, deuxième adjoint au maire d'Agadez. Monsieur le maire, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous également Amadou Oumarou, qui est le secrétaire général de l'association des ex-passeurs. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum du studio Kalangou de ce soir, situé à plus de 900 km de Niamey. Agadez se trouve entre le Sahara et le Sahel. Agadez, c'est une vaste région d'environ 667 799 km² de superficie. Elle fait frontière avec l'Algérie et la Libye. Certains n'hésitent pas à appeler Agadez carrefour ou plaque tournante de la migration du fait qu'une grande partie des candidats à la migration vers l'Europe passe par là. Ces dernières années, la région a connu des bouleversements importants allant de la criminalisation du transport des migrants, de la fermeture de certains sites aurifères. Nous allons tout de suite, sans plus tarder, rentrer dans le vif du sujet. Je laisserai la parole aux uns et aux autres pour nous en dire, en gros, comment chacun décrira la situation actuelle de la ville ou de la région en général pour ce qui concerne la question de la migration. Monsieur le deuxième adjoint au maire d'Agadez, Ahmed Koussa.
Moi, je dirais que la situation actuelle, elle est ce qu'elle est par rapport qu'avant. C'est vrai que aujourd'hui, on sent qu'il y a la crise qui est là parce que l'économie de la commune urbaine d'Agadez et l'économie même de la région a des sérieux problèmes, tout simplement parce que les gens n'ont pas répondu à leurs promesses. C'est-à-dire que depuis cette affaire de la loi 036-2015, il était prévu qu'Agadez soit accompagné pour que ensemble nous puissions injecter dans l'économie d'Agadez d'importantes ressources qui feront en sorte que l'économie continue de tourner. Aujourd'hui, on le sait, la reconversion, elle est ce qu'elle est. Elle est lente, elle n'arrive pas. Nous avions seulement 6% qui ont été touchés sur le nombre important des acteurs, ce qui fait que les difficultés continuent. Vraiment, moi ici, je salue au fait la patience de la population d'Agadez qui se donne à fond pour pouvoir survivre en quelque sorte.
Nous donnons la parole à Abdourahman Ousmane Koutata, qui est le président du conseil régional des jeunes d'Agadez. Comment vous décrivez la situation actuelle de la migration et de tout ce qui tourne autour ici à Agadez?
Moi, ce que je veux dire par rapport à la situation de la migration de la région, ou plus particulièrement ici de la ville d'Agadez, c'est que la situation reste à désirer. Quand nous avons une panoplie importante d'ONG internationales qui sont à Agadez, qui en majorité ont été financés afin d'atténuer les souffrances de la population ou bien d'accompagner des programmes de reconversion des anciens acteurs. Que nous remarquons que le fonctionnement de ces organismes dépasse de loin ce qu'ils injectent dans la reconversion et dans l'accompagnement aux populations. Nous pensons que c'est cette copie qu'il faudrait voir. Et nous avons des collectivités, nous avons des administrateurs. Je pense qu'il était plus favorable et plus meilleur de faire en sorte que ces projets ou bien ces appuis viennent directement dans nos collectivités, ou bien qu'ils viennent directement dans nos administrations.
Voilà. Bien. Monsieur Boutali Tiwaren.
Ce que je veux dire, c'est que l'approche n'a pas été vraiment compatible avec l'attente. Qu'est-ce que je veux dire par l'approche? D'abord, ce n'était pas un crime avant cette loi au Niger. C'était quelque chose de reconnu. Ce sont des autogares qui ont été créés depuis les années 97, après les premiers accords de 95. Donc, il y a eu des autogares ici qui font Dirkou, qui font Assamaka, qui font un peu partout. Mais cette loi a directement rendu criminelle cette activité. J'étais parmi les premières rencontres avec tous les maires de la région et le président du conseil régional pour avoir rencontré à la haute autorité l'Union européenne pour nous expliquer un peu en 2015 ce qu'ils veulent faire par cette loi-là.
Parler de la loi 036-2015.
Voilà, et depuis le début, ils nous ont dit directement qu'ils ne vont pas dédommager des criminels. Et sans sensibilisation, sans approche, dès que cette loi a été signée, il y a eu des arrestations, il y a eu des véhicules qui sont arrêtés, il y a eu aussi le règlement de la CEDEAO qui a été aussi abusé parce qu'on nous a dit directement que la CEDEAO s'arrête à partir d'Agadez. Tu sors d'Agadez à 1 km, tu n'es plus dans l'espace CEDEAO.
Qui vous a dit?
C'est l'État et l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, c'est le constat, c'est l'échec aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elle est devenue encore plus criminelle qu'avant et plus avantageuse pour les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu interdit comme la drogue. Donc, c'est aujourd'hui que les gens se sont mis là-dedans vraiment pour gagner de l'argent. Et pour les candidats à l'immigration, c'est devenu plus dangereux parce qu'ils passent dans des endroits très loin des nationales.
Parce qu'on a vu qu'avec la fermeture des voies ordinaires,
voilà,
des centaines de voies... Voilà.
Si l'approche a été vraiment créée, chose compatible, ça n'allait pas se passer comme ça.
Je
reconnais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je reconnais que nos leaders, à l'époque, ils ont posé ces problèmes sur la table. J'étais avec tous les maires de la région, même ceux du Kawar, avec le président régional, avec la première adjointe, c'était une dame, elle est de la zone aussi. Ils ont dit vraiment, voilà comment il faut procéder pour accompagner cette loi. Mais l'Union européenne a directement dit qu'il ne dédommage pas les criminels. Et c'est ça qu'ils ont caché aux vrais acteurs qui ont constitué des dossiers, qui ont tout fait pour attendre. Et jusqu'à présent, ils sont là, ils sont découragés.
Bien. Nous donnons la parole à Amadou Oumarou, qui est le secrétaire général de l'Association des ex-passeurs. Aujourd'hui, vous, en tant qu'ex-passeur, comment, en un mot, vous décrivez la situation actuelle?
Moi, ce que je peux dire par rapport vraiment à cette situation de la migration, nous, en tant qu'acteurs clés de la migration, que l'État du Niger, tout autour du maire de la commune urbaine d'Agadez, on nous a appelés pour mettre fin à cette pratique et que nous, on est tombés d'accord. Une liste de 16 acteurs a été dénombrée au niveau de la région d'Agadez, les 15 communes, qui font au nombre de 6565 personnes qui font dans la filière de différents corps de métier de cette migration-là.
6565 personnes.
Et que nous, on a dit que vraiment, lors de la table ronde, que vraiment, de cette activité, l'État va faire un plaidoyer auprès des partenaires pour reconvertir toute cette personnalité-là à entamer une autre activité pour laisser cette activité illicite.
Tout le monde était tombé d'accord.
Tout le monde était tombé d'accord. Tous ceux qui ont dit leur nom, ils sont tombés d'accord parce qu'on les a promis qu'ils seront reconvertis. Et nous, personnellement, moi qui ai fait 30 ans d'exercice, j'ai un bureau. On est au sein de l'autogare. Je paye les patentes. Je fais la feuille de route et je fais toutes les formalités pour faire partir ces migrants. Ces migrants-là, ce n'est pas des migrants qui viennent de d'autres. C'est des Africains. Ils ont leur passeport, ils passent par le poste de contrôle. Le chargement, ça s'est fait au niveau de l'autogare. Ce n'est pas une activité que nous avons menée comme trafic illicite. Ça nous a choqués, mais seulement l'État du Niger a pris l'engagement pour freiner cette migration. Ils ont voté une loi pour freiner cette migration.
Parce qu'à un moment donné, on se rappelle qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément installées à Agadez, qui se sont mises dans cette activité, et il y a eu plusieurs morts dans le désert.
Je vais arriver à ce niveau-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au début, dans les années antérieures, la migration, là, ça se passe normalement. Il n'y a pas de problème. Le problème a commencé lorsque le mur là qui a contré la migration, je parle de la Libye, le régime de Kadhafi, c'est le mur qui a contré, même auparavant. Mais quand le régime là a échoué, maintenant c'est la débandade. Même autour de la ville d'Agadez, il n'y a personne qui contrôle ce chargement. C'est de nouveaux véhicules qui viennent pour transporter ces migrants. Nous, on reconnaît que vraiment, C'est devenu, ce n'est plus une immigration.
Vous avez perdu le contrôle sur ce que vous...
On a perdu le contrôle parce que ceux qui viennent ici transporter de ces migrants, on ne sait même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que non seulement il y a des gens qui font des contacts, des migrants, même, c'est eux-mêmes qui sont devenus des passeurs. Ils ont des ghettos ici. Et c'est les transporteurs qui viennent de la Libye, qui viennent prendre ces migrants-là. Ils contournent toutes les barrières et pour partir et jeter les gens-là dans le Sahara. Et à partir de la Libye, comme il n'y a pas un État, les gens-là rentrent dans les ballots et se jettent dans la mer pour mourir. Donc c'est pourquoi nous, on a pensé vraiment pour suivre l'État.
Vous avez
déjà
voulu accompagner cette décision.
Oui, on a voulu accompagner cette décision parce que c'est vrai, c'est des Africains qui meurent. Parce qu'il n'y a personne qui est contre la situation.
Alors, Monsieur le maire, vous voulez réagir?
J'aimerais un peu ajouter quelque chose. Moi, je me retrouve... j'étais à la rencontre du 2 décembre et du 8 décembre 2017 à Niamey. Vous savez qu'avant cette rencontre à Agadez, je pense que la commune urbaine d'Agadez, nous étions les premiers à agir face à la loi 036-2015. Lorsque la loi a été prise et que sa mise en application a été prise, nous nous sommes dit qu'au niveau de la commune, tous ceux qui ont été pris ont été amenés à la commune urbaine d'Agadez. Tous ceux qui ont été pris à la frontière ont été ramenés ici. Les véhicules qui ont été pris ont été amenés ici. Donc nous nous sommes dit, mais écoutez, puisqu'il y a des prisonniers autour de ça et qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont pris, qu'est-ce que la commune doit faire? Et au niveau de notre commune, nous nous sommes rencontrés, on avait discuté, et le maire m'a chargé de prendre ça à main, cette question de la migration. Et j'étais le premier à rencontrer tous ces acteurs-là, un à un. Certains, je les ai rencontrés chez eux pour les faire venir à la mairie et discuter avec eux. D'abord, il faut que nous comprenions qu'est-ce qui se passe autour de cette économie migratoire. Qu'est-ce que les gens gagnent et que les gens ne veulent pas, au fait, laisser cette activité. Donc, on les a réunis, on les a expliqué qu'il y a une loi qui est là et que nous avions l'obligation de faire respecter et de respecter cette loi en tant qu'autorité. Mais nous voulons aussi protéger nos concitoyens parce qu'ils sont d'Agadez, ils sont habitants d'Agadez et c'est là où Agadez, c'est la commune qui a organisé la table ronde le 22, 23 et 24 octobre 2016, cette table ronde pour réfléchir. Et c'est quoi la réflexion? C'est pour demander aux acteurs qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse pour que vous laissiez cette activité. Ils nous ont dit, nous voulons quoi? Si on peut nous faire des projets de reconversion, aucun problème. On peut quitter cette activité parce que nous sommes dans l'obligation de respecter la loi de notre pays. Voilà la première des choses. En ce temps-là, aucun pays, aucun partenaire ne s'est annoncé. Et Agadez a pris les recommandations de cette table ronde où nous avions fait la rencontre dont parlait tout à l'heure Boutali à Niamey le 2 et le 8. J'ai dit aux gens, ne regardons pas qui est qui dans la reconversion, mais nous voulons à ce que les gens soient aidés, soient appuyés pour qu'ils laissent cette activité parce que c'est brusquement qu'on a empêché cette activité. On sait que la migration, personne ne peut empêcher la migration. De tout temps, il y a eu la migration. Certes, avec, comme l'a dit tout à l'heure l'acteur de la migration, c'est que quand le mur de la Libye est tombé, quand Kadhafi est tombé, c'est l'opportunité, et là, il n'y a plus d'État en Libye. Les gens ont maintenant la possibilité de prendre la mer et de partir. Mais nous avions aussi une autre obligation. Ceux qui meurent là, ce sont des jeunes Africains. C'est toute une jeunesse africaine. Nous avions aussi une obligation en tant qu'autorité de protéger la vie humaine. Est-ce que vous voyez? Mais pas d'empêcher la migration. D'ailleurs, nous sommes dans une communauté. Nous sommes dans la CEDEAO. Nous n'avions pas le droit de chasser un Béninois, un Togolais, machin de la CEDEAO. On n'a pas le droit de les chasser quand ils viennent à Agadez.
Est-ce vrai qu'après un kilomètre d'Agadez...
Les gens le disent, mais moi je pense que tous ceux qui partent en masse ne partent pas pour travailler en Libye. C'est qu'ils partent pour prendre cette mer et mourir en partie. N'est-ce pas? Ça, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le dit, mais c'est la vérité. J'ai dit ici dans la salle de réunion, et ils le savent, j'ai dit attention, il y a certains d'entre vous et d'ailleurs vous, tous les acteurs de la migration, selon l'Union européenne, vous n'avez pas le droit d'être reconverti. Parce que pour eux, l'État du Niger doit vous mettre en prison. Et nous, on leur a dit non, ce n'est pas comme ça.
Citoyens.
On ne peut pas prendre Sonef, Rimbo ou Azawad pour partir à Dirkou. Il faut un 4x4, il faut un Taliban. C'est ça le moyen de transport. Et ce moyen de transport, il faut le légaliser. C'est ce que nous avions dit.
Les légaliser, c'est quoi? N'est-ce pas? C'est de les inscrire à l'autogare, comme ils disent, avoir une feuille de route, avoir la liste de ceux qui partent, payer ses taxes, etc. Et être réussi à, du coup, payer ses taxes. Maintenant, la personne qui veut continuer à Libye ou en Algérie ou partout dans le monde, elle peut partir de là. Voilà ce que nous avions demandé. Et la reconversion, nous l'avions demandé parce que c'est l'économie de notre commune qui est tombée. Le recouvrement devient difficile et aussi les gens... écoutez, un Nigérien, quand il travaille, autour de lui, combien de personnes mangent?
Plusieurs personnes.
Alors,
bien, c'est ça. Et Monsieur Abdourahmane Ousmane Koutata, président du Conseil régional des jeunes, après cette loi et puis tout ce qui a tourné autour en termes d'interdiction, d'emprisonnement, et puis un peu cette économie qui s'est trouvée en tout cas ralentie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, au niveau de la jeunesse, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de jeunes qui se sont retrouvés aujourd'hui sans travail précis?
Par rapport à cette question de reconversion, et en fait, il faut retenir que les acteurs ne sont pas que jeunes. Du coup, on peut avoir que le chiffre global...
Qui a été avancé, a notamment été avancé les 6565 personnes.
Oui, dont un nombre important de jeunes. Et quand il dit que c'est de différentes catégories, c'est en passant des passeurs, des propriétaires de ghettos, des transporteurs, des chauffeurs, et même des femmes restauratrices. Voilà un peu. Donc, dans toutes ces catégories, on va retrouver des jeunes, que ce soit des hommes ou bien des femmes. Maintenant, par rapport aussi aux chiffres, c'est-à-dire quand il parle de 6500, je ne sais pas quelques chiffres, mais ce n'est pas le nombre qui a été reconverti, c'est un pourcentage minime, d'abord négligeable.
Le maire avait parlé de
6%, de 6%,
nous allons venir un peu en détail aussi par rapport à ça.
Donc, vous conviendrez avec nous que, en tout cas, il y a un nombre important de jeunes qui, après l'interdiction de cette activité, qui sont retrouvés au chômage. Et cela a été encore accentué par la fermeture des sites aurifères. Parce que à un certain moment, ces jeunes se retrouvaient au niveau du Jado. Ils arrivaient à au moins être occupés pour chercher de l'or, quoique certains n'arrivent pas à avoir, mais quand même, ils étaient occupés. Mais depuis la fermeture du Jado, vous allez ces nombres aussi augmenter.
Alors, quels sont devenus ces jeunes?
Ben, la majorité sont là. D'autres ont eu des activités à travers leurs parents, d'autres ont eu des activités, d'autres se sont reconvertis, se sont retournés à l'école. D'autres sont en attente, notamment les 94% de ceux qui ont été identifiés sont toujours là en attente, espérant avoir un autre programme qui va venir les accompagner.
Bien. Des projets ont été financés par l'Union européenne pour aider à la reconversion de nombreux jeunes. On sait qu'il y a par exemple le PERA, le plan d'action à impact économique rapide à Agadez, et le PASRAS aussi, mis en place. Monsieur Amadou, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que vous estimez comme point fort de ces projets de reconversion et les points d'amélioration?
Comme je disais tout à l'heure, c'est la liste qui a été adressée, le nombre de 6560 personnes. En une première phase, le projet PERA Kalkala, à travers Passeras, ils ont touché 371 personnes. Ça, c'est régional. Et il y a eu une deuxième phase sur prolongation de Passeras qui a touché 150 personnes. Donc, tout autour, on a un nombre de 521 personnes que le projet a touché à la base de 1 500 000 par personne. Et c'est des kits, c'est des articles qu'on distribue selon vraiment le projet lequel la personne a postulé. Il y a ceux qui ont postulé sur une alimentation générale, il y a ceux qui ont fait l'élevage, etc. Donc, nous avons 521 personnes qui ont été touchées, ce qui fait 6% du nombre que nous venons de vous dire. Donc, beaucoup reste à faire. Et ce que je voudrais ajouter ici, par rapport à tous ces intervenants, les projets qui interviennent dans le domaine de la migration, il n'y a que ces deux projets seulement qui ont répondu effectivement un peu aux besoins même de ces acteurs-là. Sinon, il y a beaucoup des intervenants qui interviennent dans le domaine de la migration. Mais la plupart de ces ONG qui interviennent dans le domaine, c'est la protection des migrants. Tout c'est la protection des migrants. Il n'y a aucune ONG ou une organisation internationale qui a touché effectivement les acteurs la population même de cette localité. Et on a bien dit que c'est une activité qui a boosté l'économie de la région d'Agadez. Et tout celui qui prend un volet pour venir à Agadez, au lieu de répondre aux besoins de la population, tous leurs sommes là qu'ils ont pris, ça se focalise sur les migrants. Ils ne répondent pas exactement aux besoins même de la population de la région d'Agadez.
Alors, les 521 personnes qui ont bénéficié de ces aides, aujourd'hui, est-ce que vous avez la situation, est-ce que ça marche bien?
En tout cas,
est-ce qu'ils ont réussi réellement à devenir indépendants?
À 80%, d'autres ont réussi. Mais les plus grands, les vrais acteurs, les grandes personnalités qui font l'acteur, la petite somme là ne peut pas les reconvertir.
1 500 000,
c'est 1 500 000. Parce que ceux qui font les chargements et qui gagnent 3 millions par semaine, quand le convoi là, il sort, on gagne 3 millions, 4 millions par voyage, moi, 1 500 000 ne peut pas me reconvertir.
Et ça veut dire que beaucoup, malgré avoir reçu.
Oui, peut-être. C'est-à-dire que vous avez dit que c'est des catégories de métiers de l'État. Parce que ceux qui vendaient des kits là, aux migrants, lui, s'il reçoit 1 500 000, ça peut aller pour lui parce que lui n'a pas
la. Le gros transporteur qui a ses 3 millions par semaine.
Quelqu'un qui a payé un véhicule de 10 millions pour faire le transport, il lui donne 1 500 000.
Mais quand vous acceptez de prendre les 1 500 000 pour trouver du boulot, c'est un engagement.
C'est malgré nous parce que les gens ne font rien. C'est malgré nous.
Monsieur Boutali Tiwaren, quelle appréciation aujourd'hui vous faites de la prise en compte des besoins de ces gens qui étaient dans la filière?
Moi, je dirais, vraiment pour appuyer un peu ce que Amadou a dit, ça a été un échec, ce qu'il a dit tout de suite là. Tous les maires et le président régional l'ont dit au début à l'Union européenne. Les élus ont parlé de toutes ces sommes-là, qu'ils ont dit ça ne va pas marcher avec ça. Ils ont dit, toute l'inquiétude de Amadou là, ils l'ont dit directement à l'Union européenne, que c'est des gens qui gagnaient ça par semaine et ça ne va pas. Il y avait trois représentants de l'Union européenne, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas dédommager des criminels. C'est parmi les premiers réunions. Donc l'échec est parti de là. Maintenant, tout ce qui s'est passé après, dans la nuit, on est parti voir le Premier ministre, on lui a dit le problème. Le Premier ministre a été catégorique aussi. La même chose que l'Union européenne, il a dit vraiment, voilà, c'est une loi dédommager des criminels, mais voilà, il y aura des réinsertions de tous les gens, ils vont essayer de réinsérer les gens. Ça veut dire que l'échec est parti depuis le début. Maintenant, après, on nous a dit d'accepter ça, parce que ça, c'est aujourd'hui, c'est venu, notre État a accepté ça, notre assemblée a signé, donc tout à l'heure, le maire disait qu'il y en a des gens qui disent ça pour la CEDEAO. La CEDEAO, ça fait partie de cette loi, que tu sors à 1 km avec des transporteurs, tu n'es plus dans la CEDEAO. Ici, quand le président de la CEDEAO est venu au Conseil régional, je lui ai posé cette question. Et il m'a dit la même chose, et qu'il m'a dit encore, comme votre assemblée l'a voté, c'est devenu une loi, c'est vous, la population, vous devez directement. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, on n'est pas là pour, on ne dit pas tous ici là qu'on défend, qu'il faut que ça continue. Non, il faut des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement...
Et pour vous, comment est-ce qu'on peut rectifier le tir aujourd'hui?
C'est très difficile de rectifier le tir. C'est très difficile de rectifier le tir. L'échec, il est consommé. Aujourd'hui, les gens sont découragés. Le truc continue.
On dit quand même qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire.
L'immigration continue. Les passeurs, ils continuent. C'est devenu plus rentable pour les vrais acteurs. C'est pas eux qui sont avec nous, qui sont assis avec nous, ou bien qu'on rencontre toujours, qu'ils ont des associations et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus eux les vrais acteurs. Aujourd'hui, c'est comme la drogue. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on ne voit pas aujourd'hui qui font l'immigration. On ne les voit pas aujourd'hui. C'est devenu plus rentable. Parce que les prix, avant, s'il était de 100 et quelques, aujourd'hui, c'est devenu jusqu'à 500 000 la personne. Donc aujourd'hui, avec 3 personnes, 4 personnes, ça te fait l'affaire. Tu les caches dans un oasis, après tu les prends, tu passes là où tu veux avec eux. Et c'est plus dangereux encore pour les candidats à l'immigration, parce qu'ils passent dans des endroits éloignés des routes nationales, et ils sont à la merci des bandits, des coupeurs de routes, de la soif, de tout, de la panne d'une voiture. Donc aujourd'hui, c'est devenu comme la drogue, c'est devenu plus rentable.
Et pour vous, c'est parce qu'il y a eu cette interdiction?
Nous, ce qu'on veut, c'est un accompagnement, vraiment avec des mesures d'accompagnement. Maintenant, c'est nos élus qui vont, avec l'État, qui vont essayer de rattraper par d'autres miracles encore, on ne sait pas comment ils vont faire pour rattraper, mais l'échec est là.
Bien.
Maintenant, je n'ai pas fini, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Mais je confirme que toutes ces ONG qui sont là, elles ne sont pas là pour la population. Elles sont là d'abord pour les immigrés. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais quand même, les gens qui vivaient de ça là, il faut essayer de de trouver une solution.
Nous allons poser la question au deuxième adjoint du maire. Monsieur le maire, aujourd'hui, on parle d'un chiffre de 6%, en tout cas de ces gens-là qui ont été reconvertis aujourd'hui. Et même là, même dans les 6%, il se trouve que beaucoup ne se retrouvent pas tellement avec la somme qui a été proposée. Alors, quelles sont les solutions qu'au niveau des élus, qu'au niveau des autorités, quelles sont les pistes de solutions qui sont en réflexion? Est-ce qu'il va falloir chercher de nouveaux partenaires? Est-ce qu'il va falloir retourner auprès des mêmes partenaires, des premiers partenaires, pour qu'ils puissent augmenter, on va dire, la location, ou c'est des solutions qui vont être prises au niveau local?
Mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire, nous sommes en train de réfléchir au niveau de la commune pour voir comment faire face à cette situation. Au tout début, on ne nous a pas écouté quand nous avions dit que les projets doivent être internés au niveau de la commune. Parce que c'est nous qui connaissons notre population. S'il s'agit de gérer les gens, c'est nous qui connaissons qu'est-ce qui sont des vrais acteurs dans cette situation. C'est nous qui connaissons quels sont les jeunes à risque. Et dans cette situation, je vous dis, la plupart des jeunes et beaucoup de jeunes vivent de l'économie migratoire. Quand vous prenez, il suffit qu'un camion, un bus arrive. Depuis la barrière, déjà il y a des jeunes avec des motos qui peuvent prendre ces migrants-là, les amener au ghetto. C'est 1000 francs par personne. Quand ils les amènent au ghetto, par jour au ghetto, c'est 1000 francs que la personne paye. Ces gens-là, ils achètent des bidons, ils achètent à manger, ils achètent chez eux. Donc, c'est toute une chaîne. Il y a beaucoup de gens qui vivent de là. Et la plupart
qui vivaient
de la migration, et la plupart sont des jeunes. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je me disais que pour gérer cela, il faudrait que les projets écoutent les communes. Il faut qu'ils viennent qu'ensemble qu'on monte ces projets-là pour faire face, n'est-ce pas, ou pour gérer cette situation des acteurs. De deux, il faut des projets structurants pour la commune, des projets à long terme. Nous avions fait un grand plaidoyer auprès de l'Union européenne pour qu'on ait une centrale solaire à Agadez. Et le dossier est bien parti, nous avions toutes les études sont terminées, mais jusqu'à preuve de contraire, ça n'a pas commencé parce que ce n'est pas encore lancé. Nous avions donné un terrain de 100 hectares, n'est-ce pas? Nous sommes partis nous-mêmes amener ces gens sur ce terrain, toutes les études environnementales, etc., faisabilité, tout a été
coupé. Quel est le lien, la et centrale solaire?
Attends, quand on a assez d'électricité, on s'était dit qu'au moment où il y avait eu ce problème, nous, dans les projets structurants, nous avions regardé qu'il faudrait créer des petites industries. Et on ne peut pas créer des industries quand on n'a pas d'électricité. On ne peut même pas avoir de l'eau quand on n'a pas d'électricité. Et aujourd'hui, c'est l'énergie, n'est-ce pas, est un facteur de développement exceptionnel. On a demandé à ce que nos routes soient bien construites à Agadez-Zender, à Agadez-Tawa. On avait fait beaucoup de doléances parce que ces doléances-là, les gens peuvent s'orienter à faire d'autres choses, à explorer d'autres horizons, à laisser toutes ces activités aujourd'hui. Mais si cela n'a pas été fait, c'est vrai, la reconversion, elle est minime. C'est vrai, ils vont revenir encore. Ils ont dit qu'ils ont eu un petit financement pour 600 et quelques personnes. Ça, c'est peu. Même les 600, s'ils ne viennent pas le faire avec la commune, c'est toujours la même situation qui continue. Aujourd'hui,
donc l'élaboration des projets avec les...
Aujourd'hui, le groupe qui veut partir à Libye et tout le monde le sait, il faut qu'il dépose. Si c'est un groupe de 25, de 30 personnes, il faut qu'il dépose de l'argent pour un taliban 4x4 avant de partir. Mmh. Il faut que le transporteur s'assure que même si on le prend ou on prend son 4x4, il est capable d'acheter un autre pour continuer, ou bien un de ses frères peut acheter un autre pour continuer. De deux encore, ils suivent des itinéraires détournés où ils ne peuvent même pas être secourus. C'est encore un autre problème. Beaucoup meurent, il faut des années pour qu'on sache là où ils sont, où qu'on tombe sur eux, une patrouille peut tomber sur eux ou d'autres voyageurs. Mais il faudrait voir que plus ça coûte cher, plus ça continue. C'est l'argent que les gens cherchent. Et plus il y a de l'argent, plus il y a des mafieux. Et ça va continuer. Donc, nous nous sommes dit qu'au niveau de la commune, il faudrait que les partenaires Et nous sommes en train de chercher à chaque partenaire qu'on rencontre, qui qu'il soit. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des discussions avec l'UNHCR, avec tous ces prestataires, l'APBE, COPI, InterSource, etc. Nous sommes en train de mener avec la coopération allemande des discussions pour qu'on puisse voir quel genre de reconversion pérenne, pas cette reconversion de 1,5 million, mais de reconversion pérenne, parce que nous l'avions même essayé, nous avions mis en place une boutique à l'association de 7 millions et quelques, qui aujourd'hui marche très bien. Donc on s'était dit que...
L'association des expasseurs.
Oui, les expasseurs, ils sont là, ils peuvent le confirmer.
C'est l'Amérique qui a mis
la place. Non, c'est avec encore les partenaires. C'est avec le HCR que nous sommes en train de voir ça. Donc nous sommes dit qu'il faudrait une autre forme de reconversion pour permettre aux acteurs de se mettre à expérimenter pour que les acteurs soient à l'aise et continuent, s'insèrent dans d'autres activités. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, c'est que même parmi les acteurs, ce n'est pas tous les acteurs qui ont accepté de venir avec nous au tout début. Beaucoup sont restés dans la clandestinité et continuent de faire l'activité. Mais les projets structurants et les projets de reconversion et dosés, comme nous les appelons, des vrais projets de reconversion, peuvent vraiment juguler cette situation de la migration. Et aussi ouvrir un dialogue, une campagne de sensibilisation avec tous les acteurs pour qu'on puisse savoir qui peut faire quoi et avoir assez d'informations autour de nous.
Un dialogue comme celui qu'on est en train de faire.
Comme celui que nous sommes en train de faire.
Bien, monsieur Amadou Marou, rapidement.
Oui, moi je voudrais un peu...
membre de l'AH, vous êtes membre de l'association des expasseurs. Oui.
Donc je voudrais un peu appuyer ce que monsieur le maire vient de dire. Moi je pense que dès au départ, l'État du Niger a mal négocié les fonds pour reconvertir ces acteurs-là.
Les fonds étaient insuffisants.
Non seulement c'est insuffisant, mais la demande a été mal faite. Quand on dit on va reconvertir quelqu'un, c'est pas en lui donnant une activité comme sous forme de générateur de revenus. Au niveau de la région d'Agadez, il y a beaucoup de potentialités qui sont là et qui restent à exploiter. En termes d'agriculture, en termes de l'élevage, c'est de créer des usines de transformation parce que nous avons de l'orange de l'autre côté. Nous avons l'orpaillage. Nous avons toute une chaîne de potentialités qu'il faut utiliser pour créer des emplois aux jeunes, pour créer des emplois à ces jeunes-là, et même les migrants, parce que la migration, là, il y a la migration circulaire. Cette migration qui circulaire, qui vient, c'est des jeunes du Niger qui viennent ici, partout au Niger. Donc, si on crée des choses, même si à l'absence de tous ces organismes, en tout cas, les gens peuvent travailler et on peut employer, une seule entreprise peut prendre 2000 à 3000 personnes. Là, je pense que c'est-à-dire c'est la demande qui n'a pas été faite et c'est de créer des usines de transformation au niveau du pays de départ et des pays d'arrivée et même des pays de transit.
Donc vous n'êtes plus pour assez content de l'argent.
Non, ça là, c'est insignifiant. C'est-à-dire, je peux dire que ça n'a même pas de sens, hein, si on peut, parce que ça ne peut pas finir. Et les gens, encore demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est-à-dire il faut voir l'avenir même de la région.
Le deuxième adjoint au maire avait dit des projets pérennes, des projets sur le long terme.
Oui, des projets de long terme où on va, c'est-à-dire où on va recruter des jeunes pour qu'ils trouvent des emplois. C'est ça qu'il faut reconverser. C'est ça la vraie reconversion.
Bien. Abdrahmane Ousmane Koutata, conseil régional des jeunes. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la migration ne soit pas malheur pour la population d'Agadez?
Moi, je l'ai dit au début. C'est-à-dire il est inconcevable que les structures viennent d'Agadez pour accompagner la reconversion des anciens acteurs de la migration, okay, et qu'ils aient un fonctionnement qui dépasse de loin les fonds qu'ils vont injecter dans la reconversion.
Ça, nous l'avons entendu. Maintenant, voilà. En termes de solutions, si nous devons raisonner en termes de moyens, si nous devons raisonner en termes de pistes de solutions.
Mais je pense que le maire a donné les pistes. C'est très simple. Il dit, quand il faut reprendre cette activité, il faut aller travailler directement avec les collectivités. Cela veut dire quoi? Que pour avoir des projets pérennes, des projets à long terme, il faudrait que les collectivités puissent être l'interface entre les bailleurs qui vont investir, au lieu d'avoir un autre organisme qui sera un intermédiaire et qui aura besoin encore d'un fonctionnement. Nous pensons que nos collectivités fonctionnent déjà. Ils ont déjà un fonctionnement. Alors ici, le bailleur aussi sera soulagé parce qu'il n'a pas à prendre en charge un autre fonctionnement. Nous pensons que pour vraiment accompagner de manière la plus sincère et la plus objective, pour vraiment pallier à cette question, il faudrait que la reconversion se fasse de manière la plus honnête. C'est-à-dire qu'on demande aux gens clairement qu'est-ce qu'ils proposent, comment il faut les mettre en œuvre. Et on les fait directement avec les collectivités et les acteurs. Moi, je pense que c'est le meilleur schéma qu'il faut. Parce que les organismes sont là. Ils sont là. Mais même en termes de recrutement, on le dit, même en termes de recrutement, ils n'ont recruté personne. Et quand vous allez partir, vous verrez que les gens qui étaient des anciens acteurs, les jeunes qui sont ici, qui remplissent toutes les compétences pour travailler, ne sont pas recrutés, ne sont pas appelés, ne sont pas impliqués. Mais alors, nous pensons que donc, de ces pas même, on peut comprendre que certaines de ces organisations n'ont même pas en fait leur place à agir sur cette question de reconversion. Voilà en fait ce que j'ai à dire.
Alors pour vous, la solution, M. Boutali Tiouarène, pour vous, aujourd'hui, la solution pour que les uns et les autres puissent retrouver, en tout cas, puissent se retrouver, puissent se sentir utiles dans leur communauté,
voilà, moi je vais...
puissent en tout cas travailler et gagner leur pain aujourd'hui. La meilleure solution aujourd'hui dans cette question de reconversion passerait par quoi?
Donc je vais essayer aussi d'amener une solution. D'abord, c'est de partir à zéro, sur des bases vraiment saines. Comme l'a dit le maire, il faut que les élus, les communes soient impliquées. Il faut qu'elles soient impliquées dans ce processus-là. Avec l'Union européenne, parce qu'ils doivent reconnaître que les mairies, quand même, les collectivités, les élus, leur ont avancé leur inquiétude dès le début. Aujourd'hui, on est dans un échec qu'il faut solutionner. Donc, il faut travailler avec les communes, les collectivités, maintenant, sur des bases saines et à zéro. Maintenant, même quand on prend les armes, il y a des amnesties. Tous ces véhicules qui sont là, qui sont à la compagnie, qu'on remette aux gens leur véhicule, qu'on relâche des gens. L'amnestie, ça existe. Il y a un échec qui est reconnu, qui est là. Maintenant, il faut repartir sur des bases saines, mais il faut quand même amnestier ces gens qui étaient vraiment, qui ont été arrêtés à l'époque où à la période où il n'y a même pas eu de sensibilisation. Il n'y a pas eu de sensibilisation. C'est venu vraiment tout d'un coup. Les gens n'étaient pas vraiment bien sensibilisés sur l'affaire. Il faut remettre à ces gens, à ces jeunes, leur véhicule, libérer les gens qui sont déjà et repartir sur des bases saines. Parce que, comme l'ont dit d'autres là, quand il y avait la Libye là, qui marchait très bien, l'Union européenne, elle s'en fout parce qu'ils savent que la Libye, personne ne passe de là-bas. À l'époque de Kadhafi, personne ne passe. Aujourd'hui, même nous, les Nigériens, on n'ose pas partir à Libye. Aujourd'hui, même nous, on ne peut pas partir à Libye. À plus forte raison, d'autres qui vont aller là-bas, ils vont souffrir. Vous avez vu comment, en 2017, comment les gens là, actuellement, ils sont en train de souffrir là-bas. Donc, vraiment, revenir sur des basses scènes, c'est très bien.
Pour vous, relâcher ceux qui ont été arrêtés dans ce cadre.
Et repartir moment où... avec les collectivités et les acteurs, les vrais acteurs, pour trouver des bonnes solutions pour aller régler ce problème-là. On est là toujours, nous, la population d'Agadez, bon, ça c'est d'autres idées, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est pourquoi c'est ici, devant Agadez, qu'ils sont immigrés. Pourquoi c'est des bus qui les amènent jusqu'ici à Agadez, mais si un petit véhicule les prend ici, c'est des immigrés après. Donc on ne comprend pas tous ces
frustrations. Vous voulez dire qu'ils ont été transportés depuis la frontière
depuis Niamey, ils sont transportés, ils sont vus. Ils savent qu'ils viennent ici à Grèce, ce n'est pas pour vivre ici à Grèce. Ils savent que c'est pour passer. Donc pourquoi c'est une fois à Grèce seulement qu'ils deviennent criminels, que ça devient une activité criminelle? Mais quand même, comme tu m'as dit, c'est une solution. Il faut aller avec les collectivités,
répartir
les
acteurs, des bases saines.
Avec des acteurs et puis amnestier les autres qui ont été arrêtés et dont les véhicules ont été pris.
Monsieur le maire, c'est une solution qui est envisageable, notamment relâcher en tout cas un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées à un moment où peut-être la sensibilisation n'a pas atteint tout le monde.
Moi, j'ai dit que la loi, elle est toujours là quand même. Elle est en vigueur, elle est mise en application. et que ça va continuer. Il faut que nous la respectons, c'est une obligation. Maintenant, toute personne, n'est-ce pas, humble, peut demander à ce que les gens soient relaxés. Ça, c'est la triste réalité. Et que ensuite qu'on puisse au fait organiser, n'est-ce pas, ces transports, nous on l'appelle transport Agadez-Dourkou ou transport Agadez à la frontière. On ne l'appelle pas transport des migrants. Nous ne transportons pas des migrants, nous transportons des gens pour les amener à Dourkou. Peut-être c'est à partir de Dourkou qu'ils deviennent des migrants. Mais voilà un peu Agadez. Et toute cette situation, c'est Agadez commune qui reçoit les coups. Parce que toutes les arrestations se font au niveau de la commune. Là, on s'était dit que ce n'est pas du tout normal. Mais nous pensons qu'avec le dialogue, les uns et les autres vont comprendre et accepter de travailler ensemble pour qu'on puisse trouver des solutions face au désastre. Moi, j'ai dit au désastre de la migration. Parce que la migration, aujourd'hui, beaucoup meurent. Ils meurent d'abord entre Agadez et Dourkou dans le Ténéré, qui est très vaste, parce qu'ils prennent des routes détournées. Ils meurent à Libye, n'est-ce pas, parce qu'ils sont victimes des milices à Libye. Ils meurent dans la mer parce qu'ils sont victimes. Et on sait que même à un certain moment, nous avions compris quand on a investigué que les choses s'organisent à partir de l'Europe. Parce que je ne comprends pas, si un Nigérien a 5 millions, je ne pense pas qu'il va prendre cet argent-là pour aller en Europe. Est-ce que vous voyez? Mais ces gens-là, alors, ils prennent Western Union à Niamey, Western Union au Mali, Western Union à Ottawa, Western Union à Agadez, Western Union...
C'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur la filière migration. Nous étions en compagnie de Boutali Tchouaren, membre du comité paix d'Agadez, Abdourahmane Ousmane Koutata, président du conseil régional des jeunes, et Ahmed Koussa, deuxième adjoint au maire d'Agadez, et Amadou Oumarou, secrétaire général de l'association des ex-passeurs. Présentation Alassane Kouzi. Bonsoir.